Il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent à un moment ou à un autre avec des enjeux de mobilisation, de rétention, d'engagement de la main-d'œuvre. Puis un facteur très important qui entre en ligne de compte, et ce dès le jour 1 de l'embauche, et j'ai nommé le processus d'accueil et d'intégration. On a donc décidé d'aborder ce sujet-là en profondeur aujourd'hui avec une conseillère en ressources humaines chez Soleva, Vicky Paquette. Bonjour Vicky! Quel bonheur de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de la JCV!
Bien, merci Marie-Pascale, c'est un plaisir tout à fait partagé. Merci de l'invitation.
Donc, en introduction, là, je parlais justement de processus d'accueil et d'intégration. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça, un processus d'accueil et d'intégration?
Bien, d'entrée de jeu, je te dirais qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Qu'après avoir mis autant d'efforts dans nos processus de dotation, que là où la candidate a accepté l'offre d'emploi, qu'il devient un employé de notre organisation, puis que le processus de dotation tire à sa fin, bien, il reste à accueillir cet employé-là de la meilleure façon qui soit pour assurer sa rétention. Hein, parce qu'on veut qu'il demeure dans l'entreprise à long terme. On veut qu'il soit mobilisé envers les défis qu'on lui propose. Puis surtout, bien, on veut qu'il adhère à notre culture d'entreprise. En gros, le processus d'accueil-intégration, ça fait partie des premières étapes de la création d'une expérience employée qui va être forte puis distinctive. La façon dont tu accueilles l'employé dans ton organisation, bien, ça peut donner des indices sur la façon dont tu vas en prendre soin dans le futur. C'est la première étape du cycle de vie de ton employé. Puis tu as beau avoir le processus de sélection le plus formel du monde, si tu l'accueilles dans un processus d'accueil-intégration plus lousse, bien, ça fait plus de sens. Puis dans le contexte actuel du marché de l'emploi, bien, on doit plus que jamais accorder une importance à notre processus d'accueil-intégration.
Vous, justement, chez Soleva, vous avez fait quelque chose de super cool pour votre adjoint administratif qui est arrivé en pleine vacances de la construction, peut-être plus difficile côté accueil-intégration. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui?
Oui, Mario, il a intégré là, l'organisation à un moment un peu délicat. La moitié de l'équipe était en vacances. Tu vas me dire, c'est pas l'idéal, j'en conviens. Mais on a trouvé une façon super originale puis créative là, de l'attirer. Puis c'était notre cahier de bienvenue. Fait qu'en gros, on avait créé un cahier avec des photos de tous les membres de l'organisation à côté duquel chaque membre écrivait un message personnalisé. Fait que, par exemple, moi, je disais mon bureau est situé tout près du tien, à côté de la salle d'imprimante. Je suis une fille de famille, j'aime le yoga, puis j'aime beaucoup les plantes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans mon bureau. Bien, imagine-toi donc que Mario, c'est un maniaque de plantes lui aussi, puis avant même de se rencontrer, on avait déjà un point en commun. Fait que Mario, il a parlé de cette expérience-là à son entourage de façon super positive. Puis pour lui, ça a vraiment été un élément clé dans son processus d'accueil et intégration.
Donc, il est vraiment devenu un porte-parole, finalement, de la marque employeur de Soleva par la façon dont il a été accueilli.
Bien, tout à fait.
Justement, là, tout ce processus-là, quand un nouvel employé arrive, c'est aussi un moment qui est idéal pour transmettre les valeurs, la mission, la vision de l'entreprise. Comment ça peut se faire, outre que sur une checklist écrite, cette transmission-là qui est super importante?
T'as raison, Marie-Pascale, c'est super important de transmettre l'axe stratégique là, lors du processus d'accueil et intégration. Puis plus on a une culture qui est forte, bien, plus elle va être facile à transmettre à nos nouveaux, que ce soit par les comportements observables, par le discours des gens, par la documentation interne, bien, c'est très porteur pour l'adhésion de nos employés. En plus, si les valeurs de l'organisation sont armées avec les valeurs de notre nouvel employé, bien, on peut présager qu'il va se sentir à sa place. Toutefois, il faut faire attention, il y a un petit bémol avec toutes ces belles valeurs-là. Si rapidement, on voit une incohérence entre les comportements qui sont observés puis le discours qui est véhiculé, bien, nécessairement, ça va nuire à l'adhésion de notre nouvel employé puis voire à sa rétention. Par exemple, chez Soleva, c'est un des dirigeants qui s'occupe de communiquer l'axe stratégique aux nouveaux employés lors d'une rencontre là, dans les premiers jours d'emploi. Je t'avoue que c'est aussi un excellent moyen pour le dirigeant de laisser tomber les barrières hiérarchiques le temps d'un moment puis de se rapprocher de ces gens. On comprend aussi que c'est pas toujours évident dans les grandes organisations où on va faire du recrutement plus massif. Fait que pourquoi pas créer une courte vidéo qui transmet la mission, la vision, les valeurs de l'organisation pour créer un premier contact. Puis on va se dire, une vidéo, c'est beaucoup plus dynamique que d'inscrire seulement ces informations-là dans le manuel de l'employé, par exemple.
Puis là, on parle justement beaucoup de ce qu'on fait quand l'employé arrive, mais il y a quand même aussi un important travail qui est à faire en amont. C'est quoi, là, disons, les choses essentielles là, quand on sait que dans les prochaines semaines, il y a quelqu'un qui va arriver, qui doivent absolument être faites avant que justement cet employé-là arrive, parce qu'on s'entend là, quoi de plus fâchant que de commencer sa première journée avec l'adresse courriel de son prédécesseur parce que rien n'est prêt pour t'accueillir?
Oui, ouais, t'as raison, on se sent pas très attentif dans une situation comme ça. Hein? Fait que je te dirais que les premières étapes, bien, ce serait d'abord la signature d'un contrat de travail ou d'une offre d'embauche, si on est dans un milieu un petit peu plus souple. On peut profiter de ce moment-là pour remettre du matériel corpo là, à notre employé, soit remettre l'offre ou le contrat dans une enveloppe, on lui remet le stylo. Puis si on reste dans le corpo, bien, on peut profiter de l'occasion pour développer davantage son sentiment d'appartenance en lui offrant des vêtements, les fichiers de l'organisation ou ses premiers articles promo pour qu'il s'identifie rapidement à notre marque. Si je reviens à ta question maintenant, parce que je me suis éloignée un petit peu avant la première journée de travail, bien, une bonne pratique RH, c'est de faire une visite des lieux. Ultimement, on veut faire ça plus tôt dans le processus de dotation. Surtout, on ne garde pas ça pour la première journée qui va être plutôt chargée, mais ça évite d'avoir des mauvaises surprises, en fait. Ensuite, il y a la préparation du matériel informatique. Hein? Ouf! Le laptop, l'adresse courriel, les codes d'accès, la puce pour rentrer au bureau, un code du système d'alarme. Bref, c'est tous des exemples de préparatifs là, à faire avant l'arrivée de notre employé. On s'assure aussi que son espace de travail est propre et surtout dépersonnalisé de son prédécesseur. Hein? Jusque dans les plus petits recoins du tiroir, on veut épurer ça. Puis une bonne pratique RH, c'est aussi de faire parvenir un courriel de bienvenue à notre employé. Quelques jours avant sa première journée de travail, on va y retrouver l'horaire de sa première journée, le code vestimentaire. Est-ce qu'il y a besoin d'apporter des choses cette journée-là, des outils, un lunch, une bouteille d'eau? Puis on va aussi lui présenter sa personne ressource. Parce que oui, on jumelle nos nouveaux employés avec des pairs dès les premiers instants. Puis est-ce que tu connais le syndrome de la salle de pause, Marie-Pascale?
Non, explique-moi.
Non. C'est l'employé qui va entrer dans la salle de pause, il y a plusieurs tables, il sait pas trop s'asseoir parce qu'il connaît pas les habitudes des gens. Quelle table je choisis, tu sais, on le sait, il y a des habitudes qui se créent en milieu de travail. Les gens s'assoient toujours à la même place, puis le nouvel employé qui est laissé à lui-même, il peut se sentir très inconfortable dans cette situation-là. Puis c'est pour ça qu'une bonne pratique, c'est oui, de jumeler l'employé au niveau des tâches, mais au niveau des temps de repos aussi. Ça facilite grandement le contact avec les gens, puis c'est plus sécurisant.
Tu parlais d'une personne ressource. J'imagine que, justement, le parrainage d'un nouvel employé, c'est une pratique que vous recommandez?
Exactement, tout à fait. Puis ça s'échelonne sur plusieurs jours, puis on a avantage à mettre différentes personnes aussi, parce que ça peut être riche d'apprendre des façons de faire de plusieurs personnes.
C'est quoi un peu là, les red flags, là, une entreprise qui peut faire réaliser en fait à une entreprise que le processus d'accueil d'intégration qui est en place n'est pas nécessairement optimal?
C'est une très bonne question. Je te dirais que si on a des problèmes de rétention de personnel, bon, on peut d'abord jeter un regard critique à notre processus d'accueil intégration. C'est aussi important de s'attarder à nos formateurs. S'ils sont fatigués ou démobilisés, bien, ça peut être une surcharge de travail. Puis ça peut aussi être très démobilisant de former continuellement des gens en sachant qu'ils ne resteront pas à long terme dans l'organisation. Fait qu'on a besoin d'ambassadeurs qui vont être forts puisqu'on veut que ce soit des leviers de mobilisation pour nos nouveaux employés. Puis si aussi on remarque des incompréhensions récurrentes des nouveaux employés sur des sujets qui auraient dû être communiqués lors des premiers instants. Par exemple, des fois, on a des codes de vie, comme tous les employés doivent se stationner de reculons pour une question de sécurité. Quand on quitte un local, on ferme la porte, on ferme la lumière, la paye, c'est aux semaines, pas aux deux semaines. Qui j'appelle si je pense que je vais arriver en retard le matin? C'est mon chef d'équipe? C'est mon gestionnaire? Bref, si on remarque une régularité dans ces questions-là, bien, ça peut être un red flag qu'on doit revoir certaines parties de notre processus d'accueil et intégration.
Et pour ce qui est des stagiaires puis des étudiants, est-ce qu'on doit les accueillir de la même façon qu'on va accueillir un employé régulier?
Bien, j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Ce qu'on veut, dans le fond, à l'intérieur de notre organisation, c'est que les gens adhèrent à notre culture organisationnelle puis qu'ils soient mobilisés. T'sais, on veut qu'ils parlent positivement de notre organisation à l'extérieur des murs. Fait que j'aurais tendance à dire que oui, on accueille les étudiants aussi bien que nos employés là, permanents. Est-ce que tout doit être pareil? Pas nécessairement. On peut alléger selon les circonstances, mais ultimement, on veut que les gens qui passent dans notre organisation aient une expérience positive, puis toute occasion est à saisir.
En résumé, Vicky, là, c'est bien beau tout ça, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses à penser, mais c'est quoi les avantages que tout ça soit bien fait puis bien documenté?
Deux mots pour toi, Marie-Pascale. Rétention et mobilisation. Nos talents sont tellement difficiles à dénicher, pourquoi on prendrait le risque de les perdre pour un accueil qui est bâclé? C'est le début d'une relation qui, on l'espère, va être longue et prospère. Puis il faut aussi garder en tête que notre nouvel employé, il a probablement quitté un autre emploi pour rejoindre votre équipe. Fait qu'un bon processus d'accueil et intégration, c'est aussi faire preuve de respect puis de reconnaissance envers nos recrues. Puis avec un processus qui est solide et complet, bien, on évite les oublis. On allège aussi la tâche de nos responsables de la formation, puis on s'assure de faire une bonne première impression.
Puis une personne là, qui, en écoutant notre épisode, se rend compte que, justement, elle a peut-être des lacunes dans son processus d'accueil et d'intégration. De quelle façon Soleva peut venir en aide?
Bien, on va d'abord aller voir ce qui est déjà en place. C'est quoi les outils que le client a à sa disposition, puis c'est quoi les éléments manquants qu'on pourrait là, ajouter pour optimiser son processus, mais sans trop alourdir la tâche là, du personnel qui est déjà en place, ça, c'est certain. Chez Soleva, bien, on est bon pour adapter les bonnes pratiques RH aux réalités de nos clients. Ce qui performe bien chez un ne performera peut-être pas aussi bien chez l'autre. Fait que ça, il faut en être conscient parce qu'ultimement, on veut que notre processus d'accueil et intégration demeure authentique puis transparent le plus possible. Je terminerai en disant, Marie-Pascale, qu'un employé qui sent qu'il fait partie d'une équipe, il va avoir 2 à 3 fois plus de chances d'être totalement engagé au travail, d'être résilient, puis il va avoir tendance à ressentir un fort sentiment d'appartenance. Puis les études démontrent que ce même employé qui éprouve un fort sentiment d'appartenance, bien, il va voir sa performance au travail augmenter de 56 %, puis ses risques de quitter l'entreprise diminuer de 50 %.
Quand même.
Fait qu'au final, si on veut créer une expérience employée qui va agir comme un facteur de mobilisation puis de rétention pour nos employés, bien, ça commence nécessairement par le processus d'accueil et intégration. Puis comme dans toute relation, on veut partir sur des bases qui sont solides pour donner le ton au futur de notre relation avec l'employé.
Merci beaucoup, Vicky, pour cette belle entrevue.
C'est un plaisir, merci.
J'en profite aussi pour remercier notre réalisateur, Pierre-Yves Blais, du Studio Le Pays.